Bonjour, nous sommes donc le mardi 12 janvier 2021. Tous mes vœux donc à tous ceux que j'entends ou qui m'entendent pour la première fois de cette année, et je suis heureux de vous retrouver alors que nous venons d'achever le temps de Noël. Vous vous rappelez peut-être que la dernière fois nous avions commencé le 8 décembre et nous avions parlé, c'était le début du temps de l'Avent, nous avions regarder ensemble le Magnificat et comment le Seigneur avait inspiré à Marie, comment l'Esprit Saint avait inspiré à Marie et marqué Marie toute sa vie par cet événement de la rencontre avec Élisabeth et donc cet événement de l'infusion de l'Esprit Saint qui lui découvre le dessein de Dieu, qui lui permet de le dire, de l'exprimer dans une oreille qui est capable de l'entendre, celle d'Élisabeth, et qui est capable de la confirmer. C'était aussi pour Marie, nous ne l'avons pas beaucoup dit, mais nous le savons, une confirmation, non pas dont elle avait besoin, mais qui est nécessaire que le Seigneur donne, en tout cas pour la consolation de ceux qu'il guide, lorsqu'il donne des inspirations qui sont très personnelles et très profondes. Il s'arrange ordinairement pour donner une confirmation extérieure qui renforce et garde dans l'humilité celui qui a reçu la révélation personnelle. Aujourd'hui, je voudrais m'intéresser à des personnages que nous connaissons bien, mais finalement pas tant que ça. Et en ce sens, ils peuvent rentrer dans la catégorie des personnages méconnus de la Bible. Je veux parler des mages. Ces mages dont l'évangile de saint Matthieu nous dit qu'ils sont venus d'Orient. Donc, pour parler de ces mages, nous allons commencer par l'évangile de saint Matthieu et nous sommes au chapitre 2 de l'évangile de Matthieu. Alors, remarquons tout d'abord que, auparavant, ce que nous avons eu, c'était la généalogie et l'annonce à Joseph. Donc Matthieu nous a situé Jésus dès le commencement comme étant dans son peuple et fils de David. Voilà, donc Joseph est fils de David et c'est par Jésus. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, dit l'ange en songe à Joseph, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ici, nous avons donc l'enracinement de Jésus dans son peuple avec toute la généalogie et avec l'œuvre qui est à accomplir dans ce peuple qui est le salut. Et lorsque nous basculons sur le chapitre 2, nous avons un épisode qui n'existe dans aucun des autres évangiles. Nous trouvons une généalogie de Jésus aussi dans l'évangile de Luc. Nous trouvons l'annonce faite à Marie. Ici, nous avions celle faite à Joseph. Mais quelque chose donc qui correspond. Mais en revanche, nous ne trouvons pas cette visite des mages. Dans l'évangile de Matthieu, nous avons la visite des bergers. Nous en dirons quelque chose tout à l'heure et comment donc ces deux évangiles nous éclaire particulièrement en étant mis en regard l'un de l'autre. Commençons donc par lire ce récit que nous connaissons beaucoup, que nous vénérons certainement et probablement depuis notre enfance, en tout cas pour certains, et qui ce récit de la venue de ces mages. Je commence donc chapitre 2, verset 1. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent, à Bethléem, en Judée, Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffres et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà, nous venons de lire 12 versets de ce chapitre 2 et les versets 13 jusqu'à 18 seront le récit du massacre des innocents avec la fuite en Égypte. Et enfin, la fin du chapitre, c'est le retour d'Égypte et l'installation à Nazareth. Mais nous allons nous intéresser, nous, seulement à cette partie qui nous parle de ces mages venus d'Orient. Alors, remarquons tout d'abord que la présence de des... On nous dit que ceux qui arrivent sont des mages. Alors, que sont des mages venus d'Orient ? Peut-être faudrait-il que nous nous replacions bien dans cet univers du Moyen-Orient ou du Proche-Orient pour nous à l'époque de Jésus. Nous sommes dans l'héritage de toute l'histoire du peuple saint et le petit pays qui est celui de la Terre Sainte est entre l'Égypte et la Mésopotamie. Remarquons comment ces deux zones, qui sont donc l'Égypte et la Mésopotamie, sont des vallées longues et irriguées par des fleuves qui ne tarissent jamais, qui sont abondants. Quand il s'agit du Nil, il a une crue annuelle. Quand il s'agit de la Mésopotamie, il y a très longtemps que on a fait des canaux et que on irrigue donc entre deux zones assez désertiques, tout à fait désertiques vers l'ouest. Pour la Mésopotamie, à l'ouest de l'Euphrate, le désert commence assez vite, un peu comme en Égypte. Et de l'autre côté, ce sont des montagnes qui sont un peu moins désertes, mais enfin tout de même qui sont beaucoup moins fertiles que la plaine. Et c'est dans ces deux grandes vallées que des civilisations très anciennes sont nées, de la même façon que nous trouvons d'autres civilisations aussi au bord des fleuves. Je pense à l'Indus, je pense au fleuve jaune, donc l'Indus c'est en Inde, dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan, et le fleuve jaune, c'est-à-dire en Chine. Donc la présence d'un fleuve, la régularité de l'eau, la platitude du terrain ont permis la culture, ont permis la constitution de récolte, de l'amélioration de certaines graines qui nourrissent donc le peuple et la création des greniers. Et on trouve jusque au Japon la vénération, la forme des temples les plus primitifs au Japon, c'est un grenier. Voilà. Pouvoir stocker une graine tout au long de l'année, quand on vit dans un climat qui a des récoltes cycliques, qui n'a pas des fruits tout au long de l'année, comme c'est le cas dans certaines régions tropicales ou subtropicales, et en particulier en Afrique, on n'a pas besoin de faire des réserves. Dans toutes les autres régions, pouvoir stocker, c'est assurer une maîtrise et assurer une opulence, et par conséquent, le développement d'une catégorie de la population qui ne travaille pas la terre. qui ne chasse pas, qui ne cueille pas, et qui par conséquent, au contraire, développe des métiers qui, d'une certaine façon, vont éclairer les cultures, d'où l'observation des astres et des saisons, et d'une autre, vont accumuler un savoir grâce à l'écriture qui naît probablement, on en a des indices en tout cas, du besoin de compter ce qu'il y a dans les greniers. Et la civilisation qui s'est développée dans la Mésopotamie s'est développée avec une sagesse de plus en plus accumulée, et en particulier l'observation et le calcul du mouvement des astres dans cette grande plaine qui intéresse encore plus qu'en Égypte où il y a aussi une astronomie très développée. Et donc les sages sont connaisseurs de ces astres et spontanément ce qu'ils calculent c'est le retour des saisons. Et donc on est moins dans la ligne des peuples qui sont autour du peuple de Dieu dans la terre de Canaan et qui dépendent de la pluie et qui invoquent les Baals pour faire tomber la pluie. Ici, nous avons des sages qui savent interpréter les signes du ciel et savoir que le printemps arrive et que par conséquent, il faut commencer à labourer les champs pour que les premières pluies de printemps puissent faire germer la semence qu'on aura jetée. Donc les sages de l'Orient sont des gens qui interprètent les signes du ciel en vue de maîtriser, de s'accorder à la fécondité que donne la nature de façon cyclique. Et voici que ces mages, dans le livre de Daniel, nous avons des développements plus importants à propos de la sagesse des Babyloniens. Daniel lui-même est présenté comme un de ces mages, un de ces personnes instruites et à qui le Seigneur en plus a donné la lucidité sur les songes. C'est donc tout un courant, une tradition et ces personnes qui étaient capables d'annoncer ce qui va se passer et en particulier de le communiquer à ceux qui étaient les puissants et les puissants du gouvernement et de l'armée, eh bien, on les appelait des Chaldéens. Donc ce sont des devins qui disent comment va se passer l'avenir et qui, grâce à l'accumulation de la mémoire et à l'écriture, arrivent à avoir une certaine assurance dans ce qu'ils annoncent. Donc l'avenir de ce qui va se passer dans le domaine politique est une chose qui intéresse beaucoup les autorités politiques en particulier, mais les paysans aussi, qui ont à semer et à récolter et à conserver pour faire vivre tout le monde. Et voici que ces mages dont on nous parle, ils ont vu une étoile, et à cause de cette étoile, ils savent qu'un roi est né à l'Occident. Donc ils ont vu l'étoile à l'Orient, c'est-à-dire chez eux, mais ça veut dire aussi qu'ils l'ont vu à son lever, au moment où il a commencé d'apparaître. D'où le fait qu'ils arrivent en disant « Nous avons vu se lever son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Ici, la révélation qui leur est faite et ce qu'ils nous révèlent dans cet évangile en venant, c'est que ils dépassent simplement le cours des saisons, ils dépassent même le cours de la succession des empires ou des puissances pour entrer dans celle d'une puissance bien plus importante puisqu'elle domine tous les temps et tous les âges. Mais ici, ce que l'évangile de Matthieu nous laisse entrevoir, et c'est l'une des choses que je souhaiterais pour vous que vous puissiez vous rendre compte, c'est comment donc la venue du Christ s'inscrit dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité, avec toutes ces dimensions historiques que je synthétise simplement dans cette visée circulaire qui est fondée sur le retour annuel des saisons, cette visée à plus long terme mais qui est tout de même des cycles et qui est celle de la succession des empires, et ici il y a quelque chose dans lequel il n'y aura pas de succession. Ils sont venus voir le roi des Juifs qui vient de naître. Comment savent-ils que c'est le roi des Juifs? En tout cas, c'est pour ça qu'ils viennent à Jérusalem. Nous avons vu son étoile à l'Orient, nous sommes venus nous prosterner devant lui. Se prosterner, le mot qui est ici, désigne bien le fait de s'allonger de tout son long. Et voici que ils viennent parce qu'ils ont, compris que celui qu'ils viennent vénérer est roi. Qu'est-ce que signifie ce mot-là? Ici, il faut que nous, nous transposions un petit peu aussi pour réaliser que la conception des dieux est encore dans bien des cas un peu embryonnaire, et nous nous rappelons que Nabucodonosor avait fait ériger une statue de lui-même en demandant à tous de se prosterner devant elle. L'ordre établi par le souverain est garant de la vie du peuple. Et ce qui est attribué au Dieu, c'est la stabilité de la vie du peuple. Et par conséquent, le roi est facilement associé à ce qui est attendu du Dieu, c'est de nous permettre de vivre. Ainsi, dans ces peuples, la distinction entre Dieu et le roi est faible. Il n'y a pas de, nous n'avons pas d'éléments vraiment facile à capter pour saisir jusqu'à quelle profondeur ces peuples voyaient leur Dieu, mais en tout cas, ils faisaient un lien très puissant entre Dieu, le Dieu, les dieux et le roi. Jusqu'à quel point le roi est-il Dieu? Jusqu'à quel point le Dieu est-il le roi? En tout cas, ils sont tous deux source de la vie, de la paix, de la prospérité, de la continuation de notre existence, des échanges, de la joie, de la fête, tout ce que les peuples peuvent désirer et attendre de plus grand qu'eux. Le reste, j'allais dire, le commerce, l'agriculture, la vie familiale, ils s'en occupent du moment que, à l'étage au-dessus, quelque chose est réglé. Lorsqu'ils ont vu cette étoile qui leur manifeste donc un moment de l'histoire qui dépasse tous les autres moments qui étaient envisagés, ceux du cycle des saisons et ceux du cycle des empires, eh bien, tout spontanément, cette étoile, elle désigne un dieu et un roi. Ils viennent donc se prosterner devant le roi des Juifs. Et à Jérusalem, c'est le roi effectif, c'est-à-dire Hérode, qui n'est plus du tout un successeur de David, qui n'est plus, qui s'est autoproclamé roi grâce à ses intrigues tout à fait politiques, à la puissance des Romains qui ont colonisé cette partie depuis 63 ans à peu près. C'est avec ce pouvoir-là que Hérode s'est installé sur le trône, succédant à une autre dynastie, celle des Asmonéens, qui étaient issus des Maccabées, et qui eux-mêmes s'étaient fait roi sans avoir de lien avec la dynastie davidique. Mais on nous a bien dit que Jésus, lui, il est de la dynastie de David. Et donc, le roi en place est un roi tout à fait politique et donc une caricature de ce que de l'union entre la divinité qui assure la paix et la prospérité et le pouvoir politique qui gouverne et qui assure cette même paix et cette même vie. Hérode, on le sait, et on le saura ensuite avec le massacre des innocents et justement de ceux qui gouvernent par la mort plus que par la vie encore. Et donc, mais c'est celui-là qu'ils vont rencontrer et cette rencontre va faire comme éclater le contraste et donc nous faire comprendre que le roi qu'est Jésus correspond pas du tout à la réalité concrète du roi qu'est Hérode. Hérode est un gouvernant, j'allais dire machiavélique au sens le plus moderne du terme, un homme qui fait de la politique. Il n'est pas ce roi qui apporte la vie et la paix. D'où le contraste et d'où le choc Et d'où la ruse d'Hérode qui cherche à savoir à quelle époque est né l'enfant et plus tard, donc, il en tirera le moyen d'aller massacrer les enfants. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir comment ces mages, dans un geste qui est... je voudrais faire que nous comprenions que ce qui est en jeu ici, c'est une vraie contemplation. Et c'est pour ça que le geste n'est pas décrit. Il est décrit dans son entièreté. C'est-à-dire que la démarche des mages est conduite par le Seigneur. Ils ont vu l'astre. C'est un élément de, disons, déclencheur, mais plus que l'astre matériel, ils ont vu l'événement, ils ont vu l'astre qui est ce soleil de justice qui se lève. Ils ont pressenti, ils sont mus par une connaissance intérieure puissante qui les fait venir. Et sur ce chemin, la présence d'un roi qui est un usurpateur est comme un obstacle. Et l'étoile se cache. Et c'est l'écriture qui va leur donner une clé supplémentaire, mais c'est l'étoile qui finalement va les conduire précisément jusqu'à Jésus. Ici, il faut que nous comprenions que ce mouvement de l'étoile qui se montre, qui entraîne les mages, qui se cache, puis qui apparaît à nouveau, c'est aussi nous décrit le mouvement de la contemplation de ces mages qui ont reçu une connaissance profonde, réelle, mais qui reste voilée, qui reste comme cachée, tout en exerçant une très forte puissance et attraction. La précision, une certaine précision est donnée par l'Écriture. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, de toi sortira un chef. Et qui suffit au roi Hérode et à ses scribes à orienter, mais surtout à faire sentir aux mages que ce n'est ni le roi, ni les scribes qui sont capables de désigner et de conduire jusqu'au terme. Et c'est l'étoile elle-même qui doit renaître. Et donc, les mages qui avaient cherché un appui, qui avaient pensé le trouver à Jérusalem, sont obligés de retrouver cet appui à la fois puissant et voilé, ténébreux, cette lumière qui luit dans les ténèbres, qu'est l'étoile qui les guide jusqu'à la maison. Et là, que voit-il? L'enfant avec Marie, sa mère. Ici, c'est la réalité de l'humanité de Jésus qui est mise en jeu. On ne nous cite plus Joseph. Nous sommes dans la maison de David, à Bethléem. C'est la réalité de l'engendrement et de la coopération de Marie avec tout ce que cela comprend de vérité de cette terre nouvelle, de cet engendrement nouveau et finalement de cette nouvelle création. Alors, nous sommes aussi invités à nous rappeler que lors de la création, lorsque le Seigneur a placé les astres dans le ciel, il leur a assigné la tâche de marquer les temps et les époques. Et ainsi, donc, ils ne sont pas ceux qui gouvernent, mais ceux qui indiquent. Et ces astres qui sont au ciel, que beaucoup de peuples vénéraient comme étant des dieux eux-mêmes, ils n'apparaissent, nous savons, qu'au début du quatrième jour, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours, les années. Ainsi donc, ils vont marquer les temps. Et ici, il est juste que ce soit une étoile qui marque le temps nouveau. Ils ont été placés par le Seigneur pour marquer les temps. Et donc, marquer désormais les fêtes, qui sont le rappel de l'action de Dieu à l'intérieur de l'histoire. Les mages sont donc conduits, et c'est le fruit je le disais, d'une contemplation, c'est-à-dire d'une connaissance qui est profonde, qui est réelle, mais qui demeure obscure, qui est motrice, elle les a poussés à se déplacer, qui est confirmée par l'Écriture, et pourtant l'Écriture ne suffit pas à la construire. Ce n'est pas, les scribes n'avaient pas tiré de leur lecture de l'Écriture une connaissance qui les ait poussés à Bethléem. Mais c'est l'attitude d'âme de ces mages, qui s'intéressent donc à la vie, à la fécondité et à la vie de leur peuple, qui les a tirés de leur pays d'origine pour les conduire jusqu'à ce lieu de Bethléem. Mais maintenant apparaît un nouveau motif, motif au sens de dessin dans une tapisserie. De toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Ici, je voudrais basculer sur une deuxième ligne de compréhension. La première était fondée finalement sur l'histoire des peuples, sur ce que pouvaient signifier des mages venus d'Orient, et pourquoi ils cherchaient un roi, et pourquoi c'est un astre qui le montre. Mais maintenant, nous voyons dans la tradition iconographique de l'Église, nous avons une sorte de parallèle entre l'adoration des bergers et l'adoration des mages. Les bergers dans Saint-Luc, les mages dans Saint-Matthieu. Et ici, dans une même phrase, nous avons les deux mots qui sont réunis. De toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Le chef qui doit sortir est un berger. Ici, pour comprendre la portée, nous nous rappelons d'une part ce parallèle iconographique que je disais, dans lequel, dans la tradition de l'Église, nous le trouvons sur les murs des cathédrales, sur les porches des cathédrales, nous le trouvons dans les vitraux, nous les trouvons plus tard dans les tableaux plus anciens ne sont pas parvenus jusqu'à nous sans doute, nous le trouvons dans la poésie aussi, nous le trouvons dans la mémoire, nous célébrons n'est-ce pas, la messe des bergers, l'adoration des bergers à Noël, et puis à l'épiphanie, la venue des mages. Donc nous avons une sorte de parallèle, et nous voyons tous dans notre mémoire des dessins ou des peintures de l'adoration des bergers ou des mages, et nous comprenons que beaucoup de peintres ont fait une sorte de parallèle. Les uns et les autres viennent devant l'enfant et sa mère. Et donc ici, nous pouvons dire que les mages viennent se prosterner devant un roi qui est un pasteur. Le prosternement de ces mages, c'est le prosternement de ceux que nous avons la coutume d'appeler les rois mages, et c'est le prosternement de ceux qui sont en fait les brebis, les moutons du berger. Ceux qui sont les rois qui se soumettent au roi de toute l'histoire, ceux qui sont les bergers qui se soumettent aux bergers de toute l'histoire. Ici, il nous faut rentrer dans une contemplation qui est difficile à exprimer avec des mots, mais que l'iconographie a souvent répété. Oui, la superposition de ces deux figures, du roi et du pasteur. Et ici, pour comprendre, nous pouvons nous rappeler que depuis le commencement de l'introduction de ce motif de la royauté dans l'histoire du peuple saint, eh bien nous voyons cette tension entre le roi qui domine et le pasteur qui fait prospérer le troupeau. Entre le roi qui domine pour lui-même et qui se fait obéir, qui gouverne avec puissance, et le pasteur qui lui aussi peut avoir ce péché de se nourrir de la laine de ses moutons, les tuer pour se nourrir et s'enfuir quand le loup apparaît. Nous avons donc des figures positives et négatives dans les deux, et nous avons aussi cette orientation que donne le Seigneur. Le Seigneur ne désire pas gouverner son peuple avec puissance. Alors ici, nous pouvons aller relire tout simplement dans le premier livre de Samuel, nous sommes au chapitre 8, l'introduction de la royauté qui va conduire finalement à l'arrivée de David. Nous sommes avec Samuel, Samuel devenu vieux, et voici que ses fils ne suivent pas ses traces. Alors, les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Samuel, nous sommes au premier livre de Samuel, chapitre 8, verset 4. Ils lui dirent, « Tu es devenu vieux, tes fils ne marchent pas sur tes traces. Établis pour nous gouverner un roi comme en ont toutes les nations. » Samuel fut mécontent parce qu'ils avaient dit, « Donne-nous un roi pour nous gouverner. » Et il se mit à prier le Seigneur. Cette phrase est très importante. Ils viennent donc parce que jusqu'à présent, le peuple était gouverné par les juges, et en fait par la loi, en fait par le Seigneur. Et ici, il demande un roi pour nous gouverner comme les nations. Et Samuel est très content, très conscient de ce qu'ils sont en train de demander. Il est mécontent parce qu'ils avaient dit « Donne-nous un roi pour nous gouverner ». Il se mit à prier le Seigneur. Or le Seigneur lui répondit « Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. » Premier livre de Samuel, chapitre 8, verset 7. « S'ils demandent un roi, c'est parce qu'ils me rejettent, ils ne veulent pas que je règne sur eux, moi, le Seigneur. Tout comme ils ont agi depuis le jour où je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, m'abandonnant pour servir d'autres dieux, de même agissent-ils envers toi. » Et en ce sens, tu es prophète, tu manifestes ce qu'ils font en fait à mon égard. Ils s'éloignent de toi parce qu'ils s'éloignent de moi. Maintenant donc, écoute leur voix, mais avertis-les solennellement et fais-leur connaître les droits du roi qui règnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Il leur dit, et voici la description du roi que Dieu ne veut pas. La description du roi que demande le peuple et qui n'est pas ce que Dieu voulait leur donner. Alors nous allons lire cette description, mais nous pouvons nous interroger, nous dire, mais pourquoi est-ce que le Seigneur laisse Samuel leur donner un roi et qu'il dit, réponds à leur demande et donne-leur le roi qu'ils veulent. Eh bien, nous sommes obligés de penser que c'est parce que il faut que le peuple se rende compte de l'impasse. Tant qu'ils n'ont pas goûté cette impasse, ils vont réclamer. Ils veulent être comme les autres. Il faut qu'ils ressentent un peu à quel point la façon des autres peuples est une façon qui est une impasse, qui ne conduit pas à la vie. Voici donc quels seront les droits du roi que tu vas leur donner. Tels seront les droits du roi qui va régner sur vous. Vos fils, il les prendra. Il les affectera à ses chars et à ses chevaux, et ils courront devant son char. Il les utilisera comme officiers de milliers, comme officiers de 50 hommes. Il les fera labourer, moissonner à son profit, fabriquer ses armes de guerre et ses pièces de ses chars. Quand nous entendons cette description, comprenons que c'est exactement ce que Jésus, roi, ne sera pas. Mais c'est ce que, finalement, le peuple réclame. Il veut une armée, il veut des hommes de guerre. Et il oublie que les soldats seront pris chez lui, la fabrication des hommes des armes sera prise sur ses biens, et que les morts seront parmi ses enfants. Vos filles, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine, pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs, de vos vignes, de vos oliveraies, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Il va donc établir une hiérarchie des gens qui seront finalement qui seront entretenus par le peuple. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme pour la donner à ses dignitaires et à ses serviteurs. Les meilleurs de vos serviteurs et de vos servantes, de vos jeunes gens, de vos ânes, il les fendra, les fera travailler pour lui. Sur vos troupeaux, il prélèvera la dîme. Vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi, mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. » Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit, « Non, il nous faut un roi. Nous serons nous aussi comme toutes les nations. Notre roi nous gouvernera, il marchera à notre tête, il combattra avec nous. » Voilà, ils sont en train de se construire un royaume comme les autres. Ils veulent être comme les autres peuples. Quelle tentation est en nous partout. Et il marchera à notre tête, ils oublient à quel prix ce sera. Il combattra avec nous, ce ne sont pas les combats du Seigneur dont il s'agit, c'est nos combats auxquels nous demandons au Seigneur de s'asservir, et en particulier en nous donnant un roi. Et le Seigneur lui dit, écoute-les et qu'un roi règne sur eux. Cela dit, le premier roi qui sera donné, ce sera Saül, qui dans un premier temps écoute la parole de Samuel et s'accorde au désir de Dieu, mais dans un deuxième temps est impatient, il veut régner finalement à son rythme et non pas au rythme du Seigneur, et il reprend la main et le Seigneur le renvoie et il institue David. Et David, c'est un roi qui est loin mais qui ne règne pas et qui pendant tout un temps va même être persécuté par Saül, mis en danger de mort, être comme un errant, comme un paria, vivre dans les cavernes, souffrir de la soif, de la faim. Et ici, nous ressentons à quel point c'est exactement ce qui est arrivé à Jésus. Jésus, persécuté par le roi Hérode, qui vit dans une caverne, qui est obligé de fuir hors de la terre d'Israël, et qui ne fait aucun geste pour prendre sa royauté. Mais c'est le Seigneur qui lui donnera, et qu'il donnera d'une façon très paradoxale, lorsqu'il donnera sa vie pour son peuple. Et David n'ira pas jusque-là, mais il se lamentera à la fin de sa vie de lorsque Absalom, son fils, révolté contre lui, mourra. Samuel, David dira, « Que ne suis-je mort à ta place ?» David est donc encore un roi de la catégorie des rois de la terre, mais il annonce ce fils dont le règne n'aura pas de fin. Mais ce roi, David, est tout de même celui qui est chanté dans les psaumes, et en particulier dans le psaume 71, selon la numérotation liturgique 72, selon l'autre numérotation. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Montagne, portez au peuple la paix, colline, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. Qu'il dure sous le soleil et la lune de génération en génération. Qu'il descende comme la pluie sur les regains, une pluie qui pénètre la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Ici, nous avons une description qui réunit ce que j'ai essayé de vous présenter depuis le début, c'est-à-dire cette grande aspiration du roi qui est censé donner la vie et des temps qui sont connus par les mages et qui sont désignés par les étoiles. Et le Seigneur nous révèle que c'est le Seigneur lui-même qui les a placés pour cela. Et la méprise des hommes qui pensent que ce sont les rois de la terre qui sont capables d'apporter cela, et qui vont contribuer et travailler de toute leur force à construire des royaumes, à construire des prospérités. Et ici, eh bien, la prière demande au Seigneur de le donner. Et lorsque les hommes ont compris, ont saisi que les rois de la terre sont incapables de leur donner cela, et lorsque le roi lui-même, qui a cru un temps pouvoir être un instrument de Dieu, a confessé que ce n'est pas lui qui pourrait le faire et que c'est en mourant lui-même qu'il pourra donner, accomplir sa royauté, alors Jésus est prêt à venir. Et le fils de David qui va venir, ce fils, son règne n'aura pas de fin, mais ce ne sera pas David qui l'aura construit, mais ce sera le Seigneur qui lui aura donné ce fils. Ici, il faut que nous sentions que que la filiation de Jésus à l'égard de David, il est fils de David, il l'est par Joseph. Joseph qui l'a reçu en don de la part du Seigneur. Et donc c'est un fils donné. Nous avons eu l'occasion de le dire déjà. Et c'est ce renversement, c'est le propre de la virginité. Voilà que le Seigneur transforme le signe qui était le roi, le signe qui était les saisons, le signe qui était la lune, les étoiles, le signe qui était les moissons qui viennent nourrir le peuple. Et tout cela devient signe du don de Dieu lui-même qui assure une vie qui est celle à laquelle le fond de notre cœur aspire, qui est plus profonde que toutes celles que nous sommes capables de décrire. Et c'est pourquoi les mots s'arrêtent à la porte de notre bouche pour décrire le don de Dieu. Parce qu'il est plus profond que tout ce que nous pouvons imaginer. Et voilà que ce don ne va plus être, comme toutes les nations le pensent, un roi pour marcher à notre tête, comme les autres nations. Mais ce don va être donné au peuple d'Israël, mais pour toutes les nations. Donc ce roi nouveau qui est donné, est donné non seulement pour Israël, mais il va rejaillir sur toutes les nations. Des peuplades s'inclineront devant lui. C'est la suite de ce que je lisais dans le psaume 71. Je suis au verset 9. Des peuplades s'inclineront devant lui. Ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Il les rachète à l'oppression, à la violence. Leur sang est d'un grand prix à ses yeux. Qu'ils vivent, on lui donnera l'or de Saba. On priera sans relâche, tous les jours on le bénira. Que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit un champ de blé et ses épis onduleront comme la forêt du Liban. Que la ville devienne florissante comme l'herbe sur la terre. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Voilà ce qui est en train de s'accomplir lorsque les mages viennent, se prosternent devant Jésus qui est le roi annoncé, le roi qui est donc plus fort que toutes les illusions de roi que les hommes se forment, le roi que le peuple réclame, mais il le réclame en réclamant en fait une autre figure de roi, un roi qui soit au milieu de nous comme les rois des nations. Il faut donc que nous acceptions comme les rois mages de nous prosterner, c'est-à-dire de perdre ce qui était en nous. Et c'est ici que la tradition chrétienne qui fait de ces mages des rois a une portée. C'est que ce que nous attendions d'un roi, ce que le peuple demandait à Samuel, c'était finalement un roi qui fasse de chacun un petit roitelet. Et pour accéder au roi que le Seigneur lui-même veut donner, un roi dont le règne n'a pas de fin, il faut que nous-mêmes nous acceptions de déposer notre propre couronne, que nous acceptions de cesser de vouloir gouverner comme les rois de la terre. Jésus le dira, les puissants de ce monde font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Je ne suis pas venu pour être servi. Je suis venu pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. Et ici, c'est il accomplit la figure de David à la fin de sa vie. David qui n'a plus de puissance, mais qui veut donner sa vie pour son peuple. Alors nous allons finir en disant que eh bien ce roi, qui est ici vénéré par les rois mages, eh bien c'est un berger. Nous trouvons cela dans le livre d'Ézéchiel, en particulier au chapitre 34, avec ce verset qui nous donne la clé au verset 23. Je susciterai à leur tête un seul berger, il les fera paître, ce sera mon serviteur David. Lui les fera paître, il sera leur berger. Nous nous rappelons que David était le petit berger, le dernier de la famille, celui qu'on avait oublié, qu'on est allé chercher à la fin, le dernier des fils que Jessé n'avait pas présenté. Et ce petit berger, avec ses armes de berger, fait tomber Goliath. Et plus tard, il règne sur Israël. Mais finalement, il faudra que, et il le règne avec une certaine puissance, malheureusement, mais il faudra que un nouveau fils de David vienne, qui sera lui humble, monté sur un âne, qui sera le pasteur de son peuple. Et ici, il est sans doute nécessaire pour nous qui sommes en France, de nous rappeler que dans toute l'Écriture, il n'y a pas de mention de chiens qui rabattent le troupeau autour du pasteur. Le pasteur est suivi volontairement par ses brebis. Elles connaissent sa voix, elles connaissent son odeur, elles le suivent parce qu'il les conduit sur de bons pâturages. Il leur donne l'eau vive. Il les fait rentrer dans la bergerie. Il chasse le loup. Il soigne celle qui est blessée. Il soutient celles qui, les brebis qui portent. Il ménage les brebis allaitantes. C'est un berger qui est tout attentif à son peuple, à son troupeau. Et vous voyez comment les mots glissent facilement entre la figure du roi et celle du pasteur. Combien d'entre nos puissants ont le désir d'être de ceux qui attirent dans une direction qui est celle de la vie des brebis. Nous sentons bien que c'est dans cette direction que le Seigneur nous appelle et qu'il est lui-même notre vie. Ce que aucun pasteur ne peut être pour ses brebis au sens d'un pasteur humain de brebis qui sont des animaux. Mais la figure nous aide à entrevoir ce que le Seigneur veut accomplir et la réalité de Jésus nous montrera comment il l'accomplit réellement. Il est vraiment celui qui va panser, il va guérir les malades, qui va nourrir et qui va rassembler, et non seulement ceux qui sont déjà de son peuple, mais ceux qui seront de toutes les nations. Donc ici, nous avons à contempler la correspondance et l'harmonie, la symphonie de la figure du roi et de celle du berger. Le roi, qu'est Jésus, est un pasteur, il est un berger. Il est celui qui attire et entraîne les brebis, et les brebis sont heureuses de le suivre. Il y a eu un grand nombre de... Alors, peut-être un dernier mot sur le fait que le roi, le successeur qui était annoncé à David, c'est... Son règne n'aura pas de fin, et c'est précisément ce qui avait été annoncé à Marie dans l'Annonciation. Voilà. Tu vas enfanter un fils, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et son règne n'aura pas de fin. Voici donc, je vous invite maintenant à reprendre des images de l'adoration des mages, de l'adoration des bergers, pour voir comment souvent les peintres les mettent dans une ville qui est plus ou moins une ruine, ou dans une grotte, ou dans... c'est le plus profond de la terre, et c'est aussi un royaume délabré. Et c'est là-dedans que Jésus naît, comme une semence, qui va construire quelque chose qui ne sera plus fait de main d'homme. Mais certains peintres le font avec... On voit la végétation qui naît dans les ruines, et ce sont des arbres fruitiers, et ce sont c'est une floraison de vie qui vient dans les enflants fractuosités des rochers ou des toits délabrés. Et puis, remarquons aussi comme les peintres se sont plu à montrer la richesse, la sophistication des rois mages, à montrer aussi comment ils sont de toutes les nations et de toutes les couleurs. Ainsi, Il y a longtemps que les chrétiens ne font pas de différence entre les couleurs. Les mages sont asiatiques, africains, européens. Et ce sont ceux-là qui sont les premiers à reconnaître ce roi berger, à avoir suivi l'indication et de l'étoile qui marque le temps du début de la nouvelle création. Frères et sœurs, n'ayons pas peur de contempler l'iconographie de Noël. Tous les artistes n'ont pas eu la même profondeur, mais un certain nombre l'ont eu et notre propre jugement le trouvera. Ceux qui nous font sentir dans cette adoration, ce prosternement, l'accomplissement qui est là et la transformation de la figure, de l'imagination que nous avons du roi dans ce nouveau roi qui est un berger, dont l'avènement est le début de la nouvelle création, qui est porté par Marie, nouvelle terre, coopération humaine à la nouvelle création. Et alors nous pourrons nous aussi nous mettre comme les bergers qui veulent être entraînés à la suite du berger, comme les rois qui déposent leur couronne parce qu'ils reconnaissent un roi d'un genre nouveau. Et nous pourrons alors nous réjouir complètement de ce fils en qui le Père met tout son amour et toute sa complaisance. Heureux sommes-nous si nous pouvons le faire. N'ayons pas peur de nous aider, je le dis encore, de l'iconographie. N'ayons pas peur de nous mettre intimement et profondément devant le Seigneur pour qu'il imprime en nous ce mouvement des mages qui se prosternent devant l'enfant et sa mère.